La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc.
La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient
« Pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. »
Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre, contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient.
« À quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. »
Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit
« Laissez-la, pourquoi la tourmenter ? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous et, quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. »
Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent
« Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?»
Il envoie 2 de ses disciples en leur disant
« Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire « Où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ?» Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour vous, pour nous les préparatifs. »
Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara
« Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. »
Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient
« Serait-ce moi ?»
Il leur dit
« C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. »
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit
« Prenez, ceci est mon corps. »
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit
« Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. »
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit
« Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscités, je vous précéderai en Galilée. »
Pierre lui dit alors
« Même si tous viennent à tomber, moi je ne tomberai pas. »
Jésus lui répond
« Amen, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. »
Mais lui reprenait de plus belle
« Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. »
Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémanie. Jésus dit à ses disciples «
Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. »
Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit :
Mon âme est triste à mourir, restez ici éveillés.
Allant un peu plus loin, ils tombaient à terre et priaient pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait :
Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe, cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux.
Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre :
Simon, tu dors ? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement une heure ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible.
De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil, et eux ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, il revient et leur dit :
Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre.
Jésus parlait encore quand Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu.
Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde.
À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit :
Rabbi.
Et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara :
Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent.
Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage.
Nous l'avons entendu dire : Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme.
Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus :
Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ?
Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau :
Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?
Jésus lui dit :
Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel.
Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit :
Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous ?
Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant :
Fais le prophète.
Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit :
Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth.
Pierre le nia :
Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles.
Puis il sortit dans le vestibule au dehors. Alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là :
Celui-ci était l'un d'entre eux.
De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour :
Sûrement que tu es l'un d'eux. D'ailleurs, tu es galiléen.
Alors il se mit à protester violemment et à jurer :
Je ne connais pas cet homme dont vous parlez.
Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite : « Avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea.
« Es-tu le roi des Juifs ?»
Jésus répondit.
« C'est toi-même qui le dis. »
Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau.
« Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. »
Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit.
« Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?»
Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait,
« Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?»
De nouveau, ils crièrent.
« Crucifie-le !»
Pilate leur disait.
« Qu'a-t-il donc fait de mal ?»
Mais ils crièrent encore plus fort.
« Crucifie-le !»
Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Le soldat l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, il rassemble toute la garde, il le revêt de pourpre et lui pose sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant
« Salut, roi des Juifs !»
Il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et s'agenouillait pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis de là, ils l'emmènent pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter sa croix à un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit « lieu du crâne » ou « calvaire ». Il lui donnait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la troisième heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient, en hochant la tête, il disait «
Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. »
De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux.
« Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. »
Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte.
« Eloi, Eloi, lema sabachthani ?»
Ce qui se traduit.
« mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient.
« Voilà qu'il appelle le prophète Élie ?»
L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il l'a mis au bout d'un réseau et lui donnait à boire en disant
« Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. »
Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara.
Vraiment, cet homme était fils de Dieu.
Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le petit et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée. Et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le Shabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Bonjour les amis, vous allez bien? Comment vous allez? Très bien? Très bien. Aujourd'hui, dimanche des rameaux. Le dimanche des rameaux est le dimanche qui précède celui de la Pâque. Le dimanche des rameaux marque l'entrée dans la semaine sainte. Et le dimanche des rameaux, tel que nous le célébrons aujourd'hui, contient à lui seul deux événements. Le premier, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, Jérusalem où il va souffrir et mourir. Le deuxième, c'est la passion du Christ, sa mort et sa mise au tombeau. C'est pourquoi on a lu la passion. Et du coup, le dimanche des rameaux, tel qu'on l'entend aujourd'hui, signifie célébration des rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui m'intéresse dans les lectures d'aujourd'hui, c'est ceci. Quel sens peut-on donner à cette mort sanglante du Christ? Pendant 1000 ans à peu près, donc de la mort de Jésus jusqu'à l'an 1050, 1100 à peu près, on utilisait l'image du rachat ou de la rançon. Il s'agissait de dire ceci. Jésus, il est venu souffrir, mourir pour nous parce que nous tous, à cause du péché, nous nous sommes tous retrouvés en esclavage. L'humanité est devenue esclave de Satan. Et pour pouvoir racheter, d'où l'image du rachat, pour pouvoir racheter cette humanité, il a fallu que le Christ souffrit et offre son sang sur la croix pour, comme une sorte de rançon qu'il aurait payé à Satan. Donc, pendant 1000 ans, c'était ce qu'on a entendu. Et puis, à partir de l'an 1100 à peu près, jusqu'à 1950, entre 1950 et 1960 à peu près, on a expliqué la mort de Jésus par ce que l'on appelle la théorie de l'expiation. C'est tout simple. Le Christ a porté sa croix à cause de nous, pour nous. Il a expié notre péché à nous. Il a pris notre place de pécheur à nous et ce faisant, il a apaisé le cœur de Dieu. À cette époque, on disait que le Christ il s'est fait péché. Il s'est fait ce qu'il n'est pas. Lui, il n'est pas péché. Il est fils de Dieu et il est Dieu. Il n'a aucun contact avec la souillure, avec le mal. Mais il est devenu péché pour pouvoir nous sauver. Et pour pouvoir nous sauver, il nous a donné ce que lui, il est. Autrement dit, il s'est renié pour pouvoir nous conférer ce que lui, il est. Nicolas de Cuse et Jean Tolère disent, le Christ, par pure grâce de Dieu, a fait de nous ce que lui, il est. Cette théorie est aussi appelée celle de la satisfaction, parce que à l'époque on disait que cela a apaisé la colère de Dieu. Ou celle de la substitution, parce que le Christ a pris notre place à nous et a souffert à notre place pour pouvoir nous réconcilier avec Dieu son Père. Aujourd'hui, comment peut-on expliquer la mort sanglante du Christ et le salut que le Christ nous a apporté? La première lecture, et que ce soit Isaïe, mais aussi Jérémie et Ézéchiel, les textes qui ont été écrits pendant l'exil à Babylone, nous aident à comprendre qu'en réalité, Dieu est resté fidèle à son alliance et Dieu nous a mis dans le jeu de la rédemption. Donc, Dieu a compté sur nous, il compte sur nous, il veut que nous participions d'une manière active à l'œuvre de la rédemption. Ainsi donc, le peuple qui s'est retrouvé comme en esclave, ce peuple est devenu esclave. L'humanité est devenue esclave. Et pour pouvoir sauver, délivrer ce peuple de l'esclavage, le Seigneur Dieu a décidé de faire de son propre fils esclave. Et le fils esclave nous a délivrés de l'esclavage. Le fils esclave nous a délivré, a délivré le peuple serviteur de l'esclavage du péché et de la mort éternelle. Voilà pourquoi, dans la lecture d'aujourd'hui, les premières phrases de la première lecture, vous allez voir que le prophète laisse entendre qu'il devient lui-même, en grec on dit doulos. Doulos signifie esclave, signifie serviteur, signifie disciple, etc. Et la deuxième lecture dit la même chose. Le Christ Jésus ne retient pas le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti. J'avais parlé de la kénose ici. Il s'est anéanti. Anéanti signifie il a rejeté ce qu'il est pour pouvoir s'abaisser au niveau de notre humanité, à la stature de notre humanité. Et ce faisant, il a pris la condition de serviteur. En grec, c'est le même mot, doulos, d'où le rapprochement entre les deux, serviteur. Bon, serviteur, ça va. Esclave, vous êtes choqués? Non, j'espère pas. Et donc, lui, il est devenu esclave. Et en devenant esclave, il nous a libérés de l'esclavage du péché et de la mort. Voilà. Et aujourd'hui aussi, on dit que le Seigneur l'a fait, le Seigneur Dieu l'a fait, non pas pour se satisfaire lui-même, mais il l'a fait pour nous montrer le grand amour qu'il a pour nous. Et à cela, on ajoute aussi sa miséricorde. Vous allez faire attention à la prière sur les offrandes et puis à la prière après la communion. Comme la bénédiction solennelle à la fin, vous allez voir que tout va dans ce sens-là. Toutes les prières nous disent que Dieu nous aime, au nom de son amour pour nous, il a décidé de laisser son fils mourir en croix pour nous donner le salut éternel. Il y a un auteur ancien, très ancien, qui s'appelle Proclus de Constantinople. Il a dit ceci, « Le Christ a donné à la croix le nom de gloire, car depuis ce jour jusqu'à maintenant, la croix est glorifiée. » C'est la croix qui féconde l'Église, c'est la croix qui illumine les peuples, c'est la croix qui garde le désert, c'est la croix qui ouvre le paradis. »